Chapitre 39. Les enfants du Nouveau Monde. Minuit moins 10.
Accélère, Agnelle!
Quelques pigeons cachés sous la charpente s'envolèrent. Agnelle, au lieu d'obéir au conseil de Solario, ralentit encore sa progression entre les poutres de la tour de Notre-Dame, de peur de déranger d'autres oiseaux ayant construit leur nid dans le clocher.
« Pas de panique, Solario. On a le temps. »
Les deux amis levèrent ensemble les yeux vers le sommet de la cathédrale. La cloche, Solario lui avait appris qu'elle s'appelait le Bourdon, se trouvait 4 mètres au-dessus de leur tête. Agnelle pouvait les atteindre de l'extérieur en s'accrochant aux gargouilles. S'il était le moins sportif de tous les garçons, il ne craignait par contre aucun vertige. Il sortit par une lucarne et se suspendit aux pierres taillées sans sembler remarquer le vide, 60 mètres au-dessous de lui.
« Fais gaffe quand même, Quasimodo !»
souffla Solario.
« C'est plutôt toi qui m'inquiète avec tes pétards et tes fusées. Tu vas faire fuir jusqu'à la mer tous les oiseaux de Paris !»
Solario se contenta de sourire. Avec Pastor, un enfant savant spécialiste de chimie, et Cheyenne, la fille du tipi réputée meilleure escaladeuse, ils avaient hissé, puis installé le plus haut possible sur la tour 3 caisses de feux d'artifice. Augénor prétendait les avoir trouvés par hasard, dans une salle sous la rotonde d'Apollon, et en avait immédiatement conclu que Marie-Lune les avait placés là pour que, le jour où le soleil de fer serait tombé, les enfants puissent tout de même continuer à célébrer le birthday. Peu importait qu'il s'agisse réellement d'un hasard, ou qu'Augénor ait découvert ses caisses de feux d'artifice en fouillant les caves du château à la recherche du tombeau de Marie-Lune. L'essentiel était de continuer à fêter le jour le plus long de l'année, ce jour où chaque enfant sur Terre était né. Minuit moins 7. Les enfants s'étaient installés un peu partout dans la ville pour assister au spectacle. La plupart des enfants du tipi s'étaient assis sur les berges du fleuve, le long du verger des Tuileries, entre la place de l'Aiguille et le château. Ils se trouvaient au premier rang face aux 2 grandes tours carrées de la cathédrale, sur l'île de la Cité, comme les enfants du château l'appelaient, d'où le spectacle serait tiré. Jamais ils n'auraient vu le birthday d'aussi près. À l'inverse, la majorité des enfants du château avaient choisi d'observer l'illumination de la ville le plus haut possible, dans le tipi. Guidés par Akan, ils s'étaient installés au 4e étage, la plus belle vue de Paris. De là-haut, leur château leur semblait minuscule et vulnérable. Une semaine après la bataille de la cour carrée, Alix avait été réélue reine, un véritable raz-de-marée. Les votes étaient anonymes, mais l'écrasante majorité des voix qu'elle avait recueillies prouvait qu'elle avait reçu un soutien massif des enfants de chaque pavillon. Alix avait pris la décision de ne rien révéler, à part à Zizo, les confidences d'Augénor. Elle garda pour elle la façon dont il avait truqué 2 ans de suite le tournoi de l'étoile ou livré le plan de l'accès au château aux enfants du tipi. Après tout, Augénor avait agi pour les protéger. Comme preuve de son pardon, elle l'avait choisi à nouveau comme conseiller, mais à condition de créer un nouveau conseil, plus important que celui du château, le gouvernement des enfants. Outre les 5 membres habituels, le conseil était élargi à 5 enfants du tipi. Akan y siégerait, bien entendu, ainsi que 4 autres enfants que le tipi désignerait. Agnelle et Zizo faisaient partie des favoris, mais la perspective d'être ainsi élus ne semblait pas les enchanter. Alix avait aussi réussi à imposer quelques décisions importantes au conseil. Première mesure révolutionnaire, le conseil avait voté que, pendant les 2 mois d'été, les plus chauds de l'année, il n'y aurait pas cours. Même Isalis avait voté pour. Les 2 mois d'été seraient consacrés à se reposer, jouer, se baigner, se balader, écouter de la musique, rêver, et surtout se mélanger avec les enfants du tipi, en matière de plongeon dans le fleuve, de fabrication de cabanes dans les arbres, de parties de loup à vue ou de balles d'autruche. Même Augénor avait admis que les enfants du tipi avaient des choses à leur apprendre. Le conseil avait également proposé que, dès la fin de l'été, les enfants du tipi qui le voudraient puissent suivre des cours au château. même si Isalis, la seule du conseil, avait voté contre. Minuit moins quatre. Sabi marchait sur la pointe des pieds, exécutant de gracieux mouvements de ballerine, en équilibre sur la berge du fleuve, accompagnée de Lunella et de quelques autres filles. Elles avaient troqué leurs tuniques blanches de Lolly Girls contre des tenues plus exotiques. Sabi était habillée d'une jupe en peau de gazelle et d'un petit haut essentiellement constitué de plumes de perroquet. Toutes les pièces de son costume avaient été récupérées par Valère dans la galerie de l'évolution du muséum et assemblées par cette petite fille du tipi aux doigts de fée, Chrysante. En échange de sa tenue avant-gardiste, il fallait bien inventer une nouvelle mode, Sabi avait passé des heures avec les filles les plus douées de la galerie des singes, Tiphaine et Coco, pour ressusciter la poupée de Chrysante et lui fabriquer un visage, des mains et des petits pieds de porcelaine.
Mieux réparé que la victoire de Samothrace, non? avait commenté fièrement Sabi en tendant la lie à une Chrysante émue aux larmes.
Sabi, Lunella et Steve, suivis de Cheyenne et Suzette, continuaient de longer la scène pour trouver la meilleure place avant minuit, sans cesser de jouer au funambule au bord de l'eau.
Vous voulez vous asseoir, les filles?
Proposèrent galamment quelques garçons du château et du tipi en se tassant sur la berge du fleuve. Elle reconnut Novak, Elios, Mook et Wayne, visiblement très complices. Ce frimeur d'Elios portait sur sa tête le chapeau de Wayne, qu'il avait échangé avec le rouquin contre sa casquette et ses lunettes noires. Mook battait le rythme sur un petit tambour de peau alors que Novak sifflait pour l'accompagner. Sabi agita avec méfiance ses plumes de perroquet. La gazelle ne serait pas facile à apprivoiser.
« Ça dépend de ce que vous avez à boire et à manger », se contenta-t-elle de répondre.
Elle s'avança et grimaça devant les jus de menthe et les paniers de fruits des bois posés à leurs pieds. Après la bataille de la cour carrée, dès ses premiers échanges avec des enfants du tipi, Sabi s'était empressée de désobéir au deuxième commandement de Marie-Lune et de goûter de la viande. Elle adorait, bien rouge et saignante. Elle adorait plus encore narguer Isalis, Augénor ou les autres délégués dans les couloirs du château en suçant désormais un os de poulet plutôt que le bâton d'une lollipop. Aucun tabou. C'était la nouvelle devise des Lolly Girls. Une seule règle, prendre le meilleur de chaque tribu.
Vous n'avez pas vu Alix et Zizo?
Demanda Sabi alors que le groupe de garçons se poussait pour leur faire de la place.
Non,
répondirent-ils d'une même voix.
Ah, ils vont tout rater,
pesta Sabi.
Où sont-ils encore passés, ces foutus amoureux?
Et elle leva les yeux vers le clocher du sanctuaire éclairé. Mise en action par Agnel, le bourdon commençait à sonner. Dong ! Assis sur les marches du parvis de Montmartre, sous la basilique blanche, face à l'incroyable vue panoramique sur la ville, Alix et Zizo se tenaient la main.
« C'est Agnel !» s'écria Zizo. « C'est Agnel qui frappe le premier coup du bourdon !»«
Je l'aime bien, ton ami, tu sais ?» fit Alix en posant sa couronne de rose sur une marche, puis sa tête contre l'épaule de Zizo.
« Toutes les filles l'aiment. Mais lui préfère les garçons, je crois.
Et les oiseaux. Don, don, don. Tu te souviens ?» continua Alix. La première fois que nous nous sommes échappés jusqu'ici, toutes les questions qu'on se posait.
Oui, malgré tout ce qui nous est arrivé depuis, je crois qu'on n'a pas eu beaucoup de réponses.
Est-ce qu'il y a d'autres enfants comme nous dans le monde?
Est-ce que nos parents s'aimaient?
Quel était le prix à payer pour confier son enfant à Marie-Lune, bien au chaud dans le château?
Alix lui tira la langue.
Don, 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 don.
« Qui nous a aidés à survivre ?» ajouta vite Zizo. « Qui nous a appris à chasser, à pêcher, à lire aussi ?»«
Où se trouve la tombe de Marie-Lune ?» continua la jeune reine en redevenant sérieuse. Le garçon releva la tête.
« Où se trouvent Mordelia et Bill ? Est-ce qu'eux aussi, quelque part dans Paris, écoutent la cloche sonner en attendant le birthday ? Est-ce que cet étrange enfant, Lupo Nero dans la forêt, écoute aussi ?»
Don, don.
Viso observa avec attention la ville devant lui, à l'infini. Son regard pouvait aussi bien distinguer le tipi sur sa droite que le château et le verger des Tuileries sur sa gauche, au bout de la place de l'Aiguille. Son regard se perdit jusqu'aux forêts, au-delà des limites de la ville.
Qui a empoisonné les animaux bien avant la veillée du sanctuaire, bien avant que ne tombe le soleil de fer? Et que signifient ces trois lettres gravées à l'intérieur? Néo.
Tiens, tu parles comme Agnelle. Mais j'ai une question plus pratique. Comment survivrons-nous à l'hiver s'il est plus froid que les autres, tous ensemble, sans l'énergie ancienne?
Dong.
Pour l'instant, la nuit était chaude. À peine une légère brise pour faire voler le pollen des fleurs qui poussaient devant eux sur les pentes de la colline. Ils peinaient à croire que, dans quelques mois, la pluie puis la neige reviendraient. Qu'après ce jour de la naissance, pour eux mais aussi pour tous les animaux, tout s'endormirait à nouveau. Le 12e coup de minuit retentit. Dong! Des cris de joie montèrent du fleuve, se mêlèrent à ceux qui descendaient du tipi. Toute une vague de rire qui entraîna les rues silencieuses de la ville dans une folle farandole.
Bon anniversaire, mon petit sauvage.
Bon anniversaire, ma reine.
On a 13 ans.
On est grand maintenant.
Oui, tellement plus grand qu'il y a un an.
Et alors qu'ils s'embrassaient, tout doucement, le ciel de Paris s'illumina d'un immense feu d'artifice multicolore. Visible de loin, très loin, du plus loin possible. Comme pour prévenir des kilomètres à la ronde, qu'ici se construisait un nouveau monde.